France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
On estime à environ 600 millions le nombre de chats domestiques qui peuplent notre planète. Comment ces félins ont-ils conquis le monde et qu'est-ce qui les a conduits jusque dans nos salons ? Si on observe un chihuahua, on peut légitimement se demander s'il descend du loup. Contrairement aux chiens, dont la domestication a profondément modifié le génome, nos matous sont étonnamment proches de leurs ancêtres, si bien qu'il est parfois difficile de les distinguer. Le chat domestique ne descend pas du chat sauvage européen, mais du chat sauvage du Moyen-Orient, apprivoisé dès le début de l'agriculture au néolithique. Cet animal sauvage captif exploité n'est peut-être pas si domestiqué que ça. D'ailleurs, on dit souvent qu'on habite chez son chat et non l'inverse. Domestication, le jeu du chat et de l'homme. Eva-Maria Geigel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS et co-responsable d'une équipe en paléogénomique à l'Institut Jacques Monod à Paris. Cécile Caloux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéozoologue, professeur au MNHN. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources. C'est sur notre fil @sciencesqfd. Alors comment l'archéozoologie et la paléogénomique nous permettent d'étudier cette histoire ? Quand la domestication du chat a-t-elle débuté ? Et a-t-elle vraiment débuté ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. On a longtemps cru que cette histoire avait débuté en Égypte.
La pyramide à degré de Saqqara, avec tout ce qu'elle représente en elle-même, n'est en fait, comme toutes les autres pyramides, que la partie apparente de ce qu'on pourrait appeler un iceberg de pierre dans l'océan de sable du désert. Le sous-sol étant très riche, et l'on vient justement d'y découvrir une des curiosités de l'archéologie égyptienne, les chats momifiés.
Ces tombes de chats ont à peu près 2000-2200 ans d'âge. Elles s'étalent entre le 3e siècle avant notre ère jusqu'au début de notre ère, sans doute. C'est quelque chose d'assez gigantesque, sans doute, parce que comme ça s'étale sur plusieurs siècles, il y a eu des milliers de momies.
Voici comment les momies ont été trouvées. Ici, c'est dans les déblais, c'est une momie de petit chat, pas encore pleinement ouverte. Celle-ci, on l'a ouverte pour voir comment les choses se présentaient. Le chat est assez bien conservé avec ses poils roux. Ces animaux étaient momifiés donc par centaines, non pas parce qu'ils étaient quelques-uns parmi d'autres, mais tous étaient momifiés. Parce que dans la représentation, dans le français des Égyptiens, tous ces animaux étaient comme les êtres humains. Était beaucoup moins éloigné des êtres humains que dans notre représentation des choses, et donc, une fois mort, pouvait être appelé à renaître et nécessiter donc d'être momifié, exactement comme des êtres humains.
Voilà un extrait du JT diffusé sur Antenne 2 en 1982. Eva-Maria Geigel, on a longtemps pensé que la domestication du chat s'était déroulée en Égypte, c'est notamment à cause du poids de l'imaginaire populaire, ces momies de chats. Ça frappe les esprits.
Bon, les momies des chats, c'est vraiment tard dans l'histoire égyptienne. Donc, ça reflète certainement pas l'histoire de la domestication. Mais c'est un indice quand même qu'il y avait quelque chose qui a changé. Parce que si on a des millions de momies de chats, c'était pas des chats sauvages qui étaient dans la prairie autour ou dans le désert autour. C'était des chats qui ont été élevés. Donc, forcément, ça, c'est signe de domestication. On les a élevés, on les a mis ensemble. Et les chats, c'est un animal solitaire, territorial. Et donc, le fait qu'on les a mis ensemble, des centaines de chats qu'on a élevés ensemble, qu'on a nourris, c'est un signe de domestication. Mais est-ce que ça, c'est le signe de du premier rapprochement entre les êtres humains et les chats? Ça, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire qu'on va raconter tout au long de cette heure. Cécile Caloux, en réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive. En plus, c'est un lieu, c'est un site sur lequel vous avez travaillé.
Oui, il se trouve que j'ai été amenée à travailler sur le site du Boubastéion. Alors effectivement, c'est fascinant parce que ce sont des millions de momies. Enfin, c'est plus ou moins en bon état. Il faut savoir que ces momies ont été placées dans des sépultures humaines. En fait, il y avait des nécropoles déjà pour les humains et on les a réutilisées pour en faire des catacombes de chats. Et donc on a des amas et des amas de chats. Et c'est oui, c'est assez incroyable. C'est pour ça que c'est assez émouvant d'écouter cette archive parce que ça donne une image très très légère. Mais c'est très, faut imaginer, c'est extrêmement poussiéreux. Les momies sont très décomposées. Il y en a qui sont très belles, mais la plupart sont en général moins jolies. Et effectivement, ce que l'on sait maintenant, c'est qu'on élevait les chats pour les tuer. Alors à tous les âges, c'était un petit peu le résultat de l'étude, c'était qu'est-ce qu'on tuait? Est-ce qu'on regardait que les chats adultes ou est-ce qu'on prenait des jeunes? Et en fait, on connaît un petit peu mieux tout ce cycle où on élevait des chats à la demande. C'est un petit peu comme je vais faire un parallèle un peu comme à Lourdes. Hein. On veut faire des offrandes parce qu'on veut bénéficier du bienfait de la déesse Bastet qui va protéger notre culture, qui va faire en sorte que les femmes aient plus d'enfants, puisqu'il y a cette image du chat. Et c'est pour ça que c'est une image extrêmement forte. Et donc, on achète des momies. On va acheter soit des petites momies, alors ça va être des chatons, soit des grandes momies. Ça peut être un grand chat ou ça peut être plein de petits chatons. En fait, on ne sait jamais et c'est assez fascinant à étudier. Donc c'est vrai que c'était très touchant.
Mais avant de finir comme offrande à la déesse Bastet, quelle est l'origine des félins domestiques, Eva-Marie Gegel?
Ah, si on savait. Donc, nous, on travaille dessus depuis un certain nombre d'années. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la génétique? La première étude qu'on a fait, c'était analyser la lignée maternelle. Donc l'ADN qui est dans les mitochondries. Les mitochondries, ce sont ces petites organites dans les cellules qui produisent l'énergie de la cellule. Et ça, ce sont les mitochondries sont transmises de la mère aux descendants. Donc pas du père. Donc c'est uniquement la lignée maternelle qu'on retrace. Donc on a retracé dans beaucoup d'ossements. Et là, on se rejoint avec les archéozoologues parce que eux, ils fournissent la matière première, c'est-à-dire analysent les ossements de ces animaux. Et nous, on extrait l'ADN et on analyse soit les génomes mitochondriales, soit les génomes nucléaires. Je reviens plus tard. Et donc, on a analysé l'ADN mitochondrial de plein d'ossements autour de Méditerranée et sur, disons, 10 000 ans à peu près. Et on a pu montrer qu'il y avait des chats qui étaient probablement indigènes en Anatolie ou au Proche-Orient, qui ont commencé avec les agriculteurs néolithiques, donc il y a à peu près 8000 ans, se déplacer vers l'Europe, ou qui ont été peuplés par ces premiers agriculteurs. Ça, c'était pas beaucoup de chats, mais il y avait la signature de ces mitochondries. Après, donc ça, c'était la première vague qu'on a mise en évidence. Après, on a vu un autre haplotype mitochondrial, donc une autre lignée maternelle qui était typique de l'Égypte, qu'on n'a pas trouvé ailleurs avant, disons, les antiquités classiques, donc à peu près premier millénaire avant notre ère. Et qui a commencé aussi, elle, se déplacer partout dans la Méditerranée, surtout au début Méditerranée de l'Est, hein, mais après, au cours du temps, Moyen-Âge, jusqu'au la mer Baltique, dans le site viking. Donc, une deuxième vague de diffusion de chats avec les humains. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que ce n'était pas des chats sauvages, mais c'était des chats qui en soi, peut-être dans la première vague, ont suivi les agriculteurs sans être domestiqués, forcément, pas du tout, ils peuvent simplement suivre, soit après quand même probablement plus domestiqués dans les cas de ces lignées égyptiennes. Et là, on a aussi maintenant des données génomiques, mais j'y reviens plus tard.
On reviendra en effet sur ces données génomiques. Je reviens un tout petit peu en arrière, avant justement cette première vague de diffusion du chat qui s'est donc déroulée à l'époque néolithique. En Europe, dans les sites mésolithiques, avant l'arrivée de l'agriculture, où étaient ces chats? Enfin, quelle était la place des chats pour les Européens de cette époque-là?
Bon, les chats au mésolithique jouaient pas de rôle vraiment en Europe. Hein. Il y en avait des chats, oui. Mais il y en avait jamais des tonnes. en plus, les trouver aujourd'hui pour les archéologues, c'est pas évident parce que ils analysent des sites archéologiques, c'est-à-dire des sites des humains. Déjà, trouver des sites mésolithiques n'est pas si facile. Et en plus, les chats, ils sont pas forcément dans ces villages. C'était pas des villages, de toute façon, mésolithiques. C'était juste des endroits où ils chassaient, où ils se sont posés. Donc, c'est pas facile de trouver des squelettes de chats. Et effectivement, on n'a pas énormément.
Cécile Calou.
Oui, en fait, la raison. En fait, c'est un petit peu compliqué, effectivement, le chat. Alors, il y avait des chats, le chat sauvage, donc le chat Felis sylvestris, il y en avait partout. Mais, en fait, la difficulté, quand effectivement, on étudie, nous, des sites anthropiques, des sites occupés par l'homme. C'est ça qui intéresse l'archéozoologue, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de raconter l'histoire de l'homme et des animaux. Donc, on va sur les sites humains, enfin, occupés par les humains. Et il se trouve que les carnivores ont une place un petit peu particulière. En général, ils sont peu représentés, en général parce qu'ils ont une force symbolique aussi assez importante. On va prendre, alors sur les sites très anciens, mésolithiques, paléolithiques, mésolithiques, ce sont les sites de chasseurs, donc on va aller prendre des animaux de chasse, et après on va avoir les animaux de viande, enfin au néolithique, on va avoir le bœuf, le mouton. Et tous ces animaux, chats, chiens, en fait, ils sont souvent un petit peu en périphérie. Et alors la difficulté en plus du chat par rapport au chien, c'est qu'il est petit. Et ce sont des petits os. C'est une histoire technique basique. Mais lorsque l'on fouille, c'est facile de voir des gros os. Pour les petits, il faut mettre en place une autre stratégie qui est de tamiser. Donc ça demande en fait des techniques au niveau du terrain différentes. Et ce qui fait que souvent, les os de chat, ils passent un peu à travers les mailles du filet, si je puis me permettre, mais enfin, à travers les mailles du tamis. Et on ne les trouve pas forcément. Donc autant les grands os, on les retrouve facilement, mais souvent sur ces sites mésolithiques, paléolithiques, ils sont souvent très cassés, très broyés, et on ne les voit pas forcément. Donc ça demande un œil un petit peu plus attentif.
En tout cas, au néolithique, au Proche-Orient, avec cette première vague de diffusion de chats dans croissant fertile, où là, la relation chat-humain évolue, que se passe-t-il précisément à ce moment-là, Eva-Marie Gagel?
Ce premier chat... Là, on peut uniquement spéculer. Parce qu'on n'était pas là, hein, donc on n'a pas de témoins écrits non plus, donc on peut juste spéculer. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des chats dans les sites néolithiques. Il y a des chats dans les sites néolithiques aussi en Europe. Et comme on a montré il y a quelques années, il y en avait quelques-uns qui portent cette signature mitochondriale qui venait du Proche-Orient. Donc on en a conclu, et ça en accord avec les archéozoologues, que dans les premiers villages néolithiques, il y avait une accumulation de graines, et ça a évidemment attiré les rongeurs. Les rongeurs, c'est une catastrophe pour les agriculteurs, pour les villages. Et donc, quand les chats sauvages se sont aperçus que les rongeurs ont pullulé là, autour de ces villages, ils se sont jetés là-dessus. Et ils ont évidemment ceux qui étaient les moins farouches. Et ça, c'est important parce que, a priori, les chats ne vont pas chercher à s'insérer dans les villages.
Hein. Ah, les
chats étaient les moins farouches, ils se sont aventuriés dans les villages et ils ont mangé les rongeurs.
Cécile Calou.
Oui, on dit souvent que l'histoire du chat se raconte avec celle de la souris, avec celle des rongeurs, hein, plus largement. Et c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle. Et d'ailleurs, le chat a suivi. Hein, quand on regarde l'histoire de la souris et qui arrive en Europe, on a l'histoire du chat qui va en même temps. Donc ça va vraiment ensemble. Et c'est une histoire qui est assez intéressante de ce point de vue-là, de suivre les deux, parce que le chat est toujours resté. On n'a pas défini le terme de domestication. Et tu l'as un petit peu évoqué, Eva Maria. On parle de domestication plus récemment. Là, on est dans des zones d'apprivoisement réciproque, si on peut dire. On parle d'anthropophilie, dire que le chat sauvage qui est anthropophobe, lui, il aime pas les humains. Mais on a quelques individus qui vont se rapprocher des humains, de l'environnement en tout cas humain, parce que il y a ces souris qui sont attirées par les grains. En fait, c'est ça la logique. Et donc, ce sont quelques individus que vous signez et que vous pouvez identifier avec la paléogénomique. Mais ce sont ces quelques individus qui progressivement vont On va entrer en fait dans ce processus de domestication qui est un processus, il ne faut pas l'oublier, qui est très lent, très long et qui peut se passer à différents endroits, dans différentes zones. Mais c'est un processus qui est long. On ne dit pas je domestique et c'est domestiqué. Ça ne marche pas.
En effet, les chats sont des super chasseurs. Hein. Ils peuvent sauter à une hauteur 5 fois supérieure à leur taille. À la course, sa vitesse moyenne, c'est de 40 km/h. Ça met 9 secondes pour faire 100 mètres. Est-ce que les chats, à cette époque, peut-on imaginer, Cécile Calou, qu'ils avaient une autre fonction que celle de chasser les nuisibles?
Eh bien, en fait, on n'a pas vraiment d'image autre. Et le chat est toujours, c'est cette image. Mais même, on parlait de l'Égypte, hein, on a les momies, mais on a également des représentations. Et on a des représentations de chats en train de chasser. Le chat chasse. C'est un chasseur, c'est un carnivore. D'ailleurs, c'est un carnivore strict. C'est vraiment le plus carnivore des carnivores, si je peux me permettre cette expression-là.
Bien que ça a changé, hein, au cours du temps.
Mais c'est très récent, en fait. C'est depuis très, très qu'il a changé, mais ça a toujours. Alors, dans les momies que l'on rencontre, parce que c'était le côté un petit peu amusant, enfin, excusez-moi, c'est l'amusement pour une archéozoologue, des momies que j'ai pu étudier, en fait, il se trouve qu'elles n'étaient pas éviscérées. Donc, c'était assez intéressant de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de l'estomac. Et il y avait des arêtes de poisson. Enfin, voilà, il y a aussi le poisson et la souris qu'on retrouve dans les petits estomacs.
Alors, comment enquêter avec des pattes de velours sur cette histoire? Restez à l'écoute.
Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Eva Maria Gegel et Cécile Calou, nous parlons d'archéozoologie du chat. On vient de voir que la domestication a débuté au néolithique, au Proche-Orient, dans le croissant fertile. Là, le rapport au chat, aux humains a évolué. Les agriculteurs commencent à accumuler des graines exposées aux rongeurs qui constituent déjà un fléau à l'époque. Et puis une deuxième phase de diffusion, beaucoup plus tardive, à l'époque des Phéniciens, des Grecs et des Romains, à travers le bassin méditerranéen. Une équipe de l'Institut Jacques Monod a montré pour la première fois comment ce fait-là a accompagné l'homme dans son parcours depuis le croissant fertile jusqu'à l'Europe. Pour le reportage du jour, on va voir comment la paléogénomique nous a permis de retracer cette voie. On en parle avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, car si les études génomiques favorisaient depuis longtemps l'hypothèse de Felix Libica, originaire du Moyen-Orient, comme ancêtre de nos Felix Catus, le scénario de migration de cet ancêtre était très mal connu. Mais en 2017, Thierry Grange, co-responsable de l'équipe épigénome et paléogénome avec vous, Eva Maria Geigel, a analysé 230 ossements fossiles de chats datant du néolithique jusqu'à l'époque moderne par une approche paléogénomique combinée à des outils bioinformatiques où on peut reconstituer des arbres phylogénétiques. Ils ont pu mettre en évidence deux vagues de migration de nos chats domestiques vers l'Europe.
Le sixième étage, c'est le haut confinement. Donc on a des pièces avec, on va rentrer avec un sas, on va être en combinaison avec de l'eau de Javel, parce qu'on va tout passer à l'eau de Javel. Et dans ce sas, on va faire en sorte que tout soit bien décontaminé. Puis ensuite, on va rentrer dans une première pièce, où là, on va traiter les échantillons. C'est-à-dire que, en général, il faut qu'on coupe un petit bout. On va avoir un os, et on n'est intéressé que par un petit bout. Alors, il faut choisir bien précautionneusement le petit bout, pour avoir le plus de chance.
Quand on parle de petits bouts en termes de grammes, c'est combien? C'est infime.
C'est moins d'un gramme. Ouais. On parle plutôt en milligrammes.
C'est des centaines de milligrammes. Étudier par exemple l'ADN, on parle d'ADN mitochondrial.
Alors mitochondrial, ça nous donne une information, un marqueur génétique qui est transmis par les femelles.
Par la mère, oui.
Par la mère, voilà, par la mère. Donc,
ça permet de retracer une lignée.
Ça permet de retracer la lignée maternelle. Donc c'est un marqueur informatif pour retracer comment les femelles se sont distribuées, propagées
géographiquement. Et dans le temps, du
voilà.
coup aussi.
Et dans le temps, voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous avez pu mettre en évidence à partir de l'analyse de ces fossiles, de ces 230 individus?
Alors, quand on regarde l'ADN mitochondrial, on va faire surtout ce qu'on appelle des approches phylogénétiques. On va essayer d'utiliser les séquences mitochondriales pour reconstituer comment elles ont évolué les unes par rapport aux autres, comment elles se dérivent les unes par rapport aux autres. Et ces approches phylogénétiques vont produire des données qu'on va visualiser sous la forme d'un arbre. Alors en fait, là, ce que je vous montre, en fait, c'est un alignement de mitogénome complet de chats.
Donc là, ce sont des séquences génétiques.
Les petites boîtes de couleurs que vous voyez ici, ça correspond aux gènes qui sont portés par l'ADN mitochondrial. Donc ça décrit les différents gènes qui sont portés par l'ADN mitochondrial, puis on a l'alignement. Et puis ce que vous voyez comme petit trait là, donc si je vous cache les gènes, vous verrez mieux les petits traits. Si vous voyez les petits traits là, c'est des positions qui changent entre chaque séquence.
Comment vous lisez ces données ?
Alors, donc, ce que vous voyez, c'est que vous avez des choses qui sont très différentes, et là, elles sont regroupées en fonction de leur similitude. C'est-à-dire qu'on va avoir des groupes. Donc là, vous voyez les premiers groupes qui sont très
donc,
éloignés.
À l'œil nu, en fait, on peut repérer ces zones
communes. Ce que vous voyez à l'œil nu, là, c'est que ceux qui sont en haut sur cette représentation sont beaucoup plus différents des autres que ceux qui sont en bas. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont divergé beaucoup plus tôt et qu'ils ont accumulé au cours du temps beaucoup plus de mutations. Donc toutes les séquences là dérivent d'une petite population ancestrale qui s'est étendue après. Donc en fait, l'évolution, ça passe par des phases où les populations s'étendent, quand ça marche bien pour elles, et puis il y a des changements climatiques, il y a un compétiteur nouveau qui arrive, et puis soudainement ça devient beaucoup plus dramatique, on va avoir une réduction de la taille des populations, elles vont devoir migrer pour trouver un environnement plus favorable, et donc on va avoir des goulots d'étranglement, puis à nouveau des expansions. Donc c'est ce genre de phénomène, ça permet au cours du temps, ça aboutit à des divergences de séquences assez importantes entre différents groupes. Donc je vais vous montrer un arbre. Donc à partir de cet alignement, on peut reproduire les choses sous la forme d'un arbre. Donc en fait, ce que vous voyez sur cet arbre, c'est que à partir d'un nœud de départ, qu'on considère qu'un ancêtre commun à toute cette séquence, qu'on ne connaît pas, on va avoir une branche qui va se séparer beaucoup plus tôt. Et puis cette branche va à nouveau se séparer en deux branches. Et puis là, on va avoir deux groupes. Et il se trouve que là, on a affaire à carrément deux autres espèces de chats, de petits chats. Donc ça, c'est un Felis chaos. Donc celui-là, on va le trouver aussi bien en Afrique qu'en Inde. Donc ça occupe d'autres régions. Sinon, ça, c'est des groupes qui sont très différents. Donc c'est dans les
c'est
alignements.
Impressionnant à quel point il est vaste, cet arbre.
Oui. Alors là, on a un arbre avec 220 séquences anciennes complètes. Donc on a une bonne grosse base de données, plus on a utilisé à peu près 500 génomes modernes. À partir des génomes, on a reconstitué les mitogénomes aussi, et on utilise ces références parce que ça nous permet de comparer vraiment, d'une part, tout ce qui s'est passé dans le passé et comment ce qui s'est passé dans le passé a abouti à la situation qu'on a actuellement. On peut utiliser d'autres représentations pour le génome, où on va s'intéresser au mélange, aux différentes ascendances à travers le génome, et puis à l'évolution des caractères, parce qu'on sait, on va regarder particulièrement la couleur du pelage ou des choses comme ça, donc chercher à savoir quand est-ce que ça se développe et tout. Donc on voit des tas de choses intéressantes à des moments assez précoces, où on voit que certaines couleurs de pelage ont été favorisées par les êtres humains. Alors les motifs, c'est très difficile à repérer, parce que les motifs, ça se produit, la génétique de la distribution du motif est complexe, et une partie n'est pas accessible à l'approche paléogénétique. Par contre, ce qu'on arrive à identifier, c'est les mutations qui vont changer la couleur des poils, donc le blanc, le noir, ou des choses comme ça, ou l'orange.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur votre appli préférée. Eva-Maria Gagel, une réaction à l'écoute de ce reportage ?
Oh, Thierry, avec qui je travaille, hein, a très bien décrit ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce que je devrais dire ? Oui, on a analysé maintenant, au cours des dernières années, on a analysé les génomes, pas seulement l'ADN mitochondrial, mais les génomes dans des chats, dans des ossements, qui nous ont été fournis par les archéologues. Et donc, on a essayé de voir comment le génome, d'un côté, évolue et comment cette diffusion s'est faite pour confirmer ou infirmer ce qu'on avait déjà vu dans la lignée maternelle, mais aussi pour voir l'autre partie, la lignée paternelle, puisque dans le génome nucléaire, on voit les deux parties. On voit la partie paternelle et maternelle, donc une bonne partie des ancêtres de chaque individu. Et cet ADN est brassé, donc il y a des recombinaisons, ce qui facilite pas forcément l'analyse. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que il y a ces chats qui se sont propagés à partir du néolithique au Proche-Orient. C'était probablement une petite population, c'était quelques chats qui ont migré avec les agriculteurs néolithiques et qui, en arrivant dans de nouveaux territoires, se sont admixtes, c'est-à-dire métissés avec les chats locaux, les chats sauvages locaux. Donc en Europe, avec ces chats assez féroces, disons, qui n'étaient pas domestiqués parce que justement, ils ne sont pas domesticables, ils se sont quand même métissés. Mais puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'individus qui ont marché avec ces agriculteurs, qui ont conquis de nouveaux territoires, cet ADN qu'ils avaient au début, cet ADN nucléaire, s'est dilué assez rapidement. Mais par contre, ce qu'on doit retenir, c'est que les chats se métissent, et se métissent parmi toutes les sous-populations qui existent aux sous-espèces selon le point de vue taxonomique.
Cécile Calou.
Oui, c'est ça. On parle vraiment de. C'est une espèce, en fait, avec des sous-espèces. C'était d'ailleurs la grande complexité. Et heureusement, la génétique est venue à notre aide pour clarifier tout ça. Parce qu'on avait Felis vestris, donc qui est le chat sauvage. Mais on avait, vous pouvez entendre les noms de Felis libica, le chat ganté, le Felis ornata, qui est le chat. Il y a différents chats. Et on n'y comprenait pas grand chose, en fait. Et c'était vraiment très compliqué. Et même dans les collections, où il y avait un mélange dans les étiquettes, où on voyait du Felis silvestris domesticus, on voyait des appellations qui n'étaient pas très contrôlées. Et la génétique nous a permis déjà de clarifier, en fait, tout ça, toutes ces lignées. Donc ça, c'était un grand apport. Et l'autre apport, c'est ce qui a été évoqué dans le reportage, la grande évolution, c'est que nous, en tant qu'archéozoologues, on a des squelettes. Donc on peut parler de l'évolution morphologique squelettique. La génomique nous a renseigné sur les pelages, parce qu'on n'y avait pas accès. C'est souvent une question qu'on nous posait, c'était quoi la couleur du chat, c'était quoi. Ben, nous, on ne peut pas vous le dire, à part si des représentations, quand on a de l'iconographie sur les périodes récentes, les périodes anciennes, on n'en avait pas. Mais ce sont des vrais apports et c'est une vraie complémentarité dans nos disciplines parce qu'on peut écrire cette histoire parce qu'on voit des petits bouts de la lorgnette différents.
On reviendra dans quelques instants sur justement ces modifications morphologiques des félins domestiques au cours du temps. Mais d'abord, un point important dans cette histoire de la domestication. Donc, quand les premiers agriculteurs néolithiques ont quitté donc leur croissant fertile, que les chats les ont suivis dans leur expédition, il y a une découverte clé qui a été faite à Chypre, une mandibule de chat qui date d'environ 6500 avant notre ère, qui a été découverte là-bas, Eva-Marie Geigel.
C'était pas une mandibule.
Ah, c'était pas une mandibule.
Non, c'était un chat entier. C'est ça ce qui est important.
En fait, il y a eu deux temps. Il y a même eu deux temps. Il y a eu un temps où on a trouvé des ossements, on a trouvé une dent, très ancien. Et après, en fait, sur un site c'était à Climonas. C'est le premier, c'était à Climonas. Et après, c'était à Chilorocombos, où effectivement, on a trouvé un chat complet. Mais le tout premier, c'était effectivement quelques ossements que vous avez analysés, d'ailleurs, je crois. Non, vous voulez. Il y avait quelques ossements.
Nous, on a l'autre.
L'autre, vous avez l'autre chat. Mais il y avait quelques ossements. Mais ça, c'est une différence de temps assez importante. C'est-à-dire que ça a complètement modifié. On parlait du chat en Égypte. Hein, le chat en Égypte, on l'a dit, c'était à l'Antiquité. Là, d'un seul coup, on a fait un bond en arrière de 5000 ans.
Oui.
Pour vraiment.
On parle de 10 000 ans, hein, là.
Oui. Relation homme-chat. Donc, ça a été une vraie révolution. Mais ça a été en deux temps. Il y a eu quelques fragments et après, il y a eu ce fameux chat complet.
Mais il faut quand même garder à l'esprit. Chypre, c'est une île, et séparée de au moins 60 kilomètres du continent. Aucun chat nage dans la mer, je crois, on est tous d'accord. Donc, ces chats, forcément, sont venus sur des radeaux ou bateaux avec les agriculteurs néolithiques, puisqu'il n'y en avait pas avant. Donc ça, c'était les archéozoologues aussi, ils ont mis en évidence qu'il n'y avait pas de félidés avant l'arrivée des premiers agriculteurs néolithiques. Et donc, Jean Lenivigne, il a trouvé dans cette tombe d'un jeune néolithique, à Chypre, le squelette d'un chat. Voilà, donc ça c'était la première vraiment indication qu'il y avait quelque chose qui a changé peut-être l'importance pour le chat par rapport aux agriculteurs néolithiques. Ça ne veut pas dire que c'était un chat domestiqué, loin de là, non. Pas non plus apprivoisé, mais un chat qui avait pris la signification qu'on l'a mis dans la tombe.
Oui, être enterré avec son chat, on comprend bien qu'il y a une relation forte. Bah,
je ne sais pas si c'était son chat, c'était un chat, donc il avait une signification.
Et là, vous évoquez également un autre point qui est très important, ces chats exportés sur des bateaux. Les chats, on estime même que le chat a permis à la navigation de se développer, Eva-Marie Gegel.
Oui, parce que naviguer sur des bateaux sans chat, c'est presque pas possible, ou disons, c'est pas possible, parce que forcément, on a des rongeurs sur le bateau, on a des réserves de nourriture sur le bateau, les bateaux, à l'époque, étaient des voiliers, des bateaux de bois, et avec des cordes, etc. Et les rongeurs, ils n'arrêtent devant rien. Ils mangent toute la nourriture, ils rongent les cuirs, ils rongent les voiles, ils détruisent tout. Donc, jusqu'en 1975, la marine anglaise, le Navy, c'était obligatoire d'avoir un chat sur le bateau. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas l'imaginer. Bon, aujourd'hui, ça a changé, évidemment. Mais à l'époque, on ne pouvait pas naviguer sans chat.
Et puis, ça a donné lieu à de nombreuses histoires, poèmes et statues dédiées aux chats marins. Alors, la domestication a-t-elle véritablement changé le chat ? Restez avec nous. Katz, de Public Body, en direct sur France Culture, car nous parlons de l'histoire de la domestication du chat, en compagnie de nos deux invités du jour, Eva-Maria Gegel, directrice de recherche au CNRS et co-responsable d'une équipe en paléogénomique à l'Institut Jacques Monod à Paris, et Cécile Calou, archéozoologue, professeure au MNHN. Alors, cette histoire de domestication, du côté des chiens, leur génome a connu une réelle évolution avec la domestication. Pour les chats, on ne peut pas en dire autant. Ce phénomène ne les a pas beaucoup changés, du moins pas avant le développement des races au 19e siècle. Les momies des chats d'Égypte, Cécile Calou, de la fin du premier millénaire avant notre ère, on voit une physionomie qui est quand même très similaire à celle de nos chats domestiques contemporains.
Ah oui, non, c'est certain. D'ailleurs, c'est assez fascinant de mettre en parallèle le chat et le chien, qui sont quand même nos deux animaux domestiques. Autant le chien, on a parlé tout à l'heure du chihuahua, mettre un chihuahua à côté d'un dog, bon, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose. On met un chat et n'importe quel chat à côté d'un chat ancien, ben c'est toujours un chat. Ça n'a pas changé. Et au niveau vraiment morphologie, squelettique, je parle bien squelettique, ça n'a pas changé. tout ce que l'on voit, ce sont des effets de race, c'est de la couleur de pelage, du poil, pas de poil. Mais finalement, ça a assez peu évolué. Alors, il y a eu des analyses un petit peu plus fines au niveau du crâne, parce qu'on sait très bien que la domestication, d'ailleurs, c'est un des effets de la domestication, c'est qu'il y a des transformations morphologiques souvent qui affectent le crâne, puisque comme on nourrit l'animal, en fait, il y a des modifications qui viennent, toute la partie cérébrale va se réduire, le museau, enfin, il va y avoir des petites modifications. Mais c'est très ténu, ça s'observe, mais très faiblement chez le chat. Vous regardez un crâne de chat d'aujourd'hui, un crâne d'hier et un crâne de 10 000 ans, et ben c'est le même chat.
Alors c'est du côté du pelage où on observe donc des changements qui est lié à la domestication. À la différence des chats sauvages généralement tigrés, les chats domestiques présentent souvent un pelage tacheté. Eva-Marie Guiguel.
Oui, et on a analysé ces caractéristiques qui est dû à, en fait, là on avait la chance, c'est une mutation. Donc ça c'est idéal pour nous. Nous on peut analyser dans les génomes anciens uniquement ce qui est connu chez les êtres vivants actuels. Donc il faut établir une mutation ou un génotype, comme on dit, donc une séquence d'ADN avec son effet sur le phénotype, sur la morphologie, sur la physiologie, sur le développement. Et donc là, on avait la chance que c'était une mutation qui fait qu'au lieu d'avoir ces rayures qu'on appelle tabi et macarelle, ça fait des taches. Et donc, on a analysé ça dans notre première étude, dans tous nos ossements, ou dans tous les ADN qu'on avait analysés, et on a trouvé que ça a apparu pas avant l'Empire ottoman, c'est-à-dire au XIIIe siècle, c'était les premières mutations qu'on a pu détecter. Peut-être il y en avait déjà un peu avant, mais on a détecté dans notre jeu de données à partir du XIIIe siècle. C'est donc très tard, très tard. Et maintenant, on a toute une panoplie d'autres mutations qu'on a analysées. Il y a déjà avant des mutations qui se présentent, qui peuvent être corrélées avec des phénotypes, des pelages, des couleurs, le noir, le blanc, comme Thierry a dit, l'orange. Mais l'orange est un génotype très compliqué. On ne va pas pouvoir l'analyser dans les anciens. Et donc, on a une meilleure idée de l'évolution de la couleur du pelage.
D'ailleurs, ça n'est qu'avec la naissance des races modernes qu'on voit donc apparaître toutes sortes de pelages, poils longs, courts, gris, taches blanches. C'est avec ce phénomène de race qui est un phénomène nouveau, enfin récent.
Sauf les couleurs. Hein, oui. Couleurs de pelage, on avait déjà avant. Mm. Mais d'autres choses un peu plus approfondies, oui, c'est à partir des races modernes.
Cécile Kelly.
Oui, d'ailleurs, je fais toujours les comparaisons chat-chien parce que ça parle bien. Mm. Mais c'est assez intéressant sur la création des races. Hein, les livres officiels des races, puisqu'il existe des livres officiels, celui des chiens date de la fin du 19e, hein, 1885 dans mon souvenir. Celui des chats, c'est 1996. Donc on a vraiment établi la liste des races, c'est très très récent. Mmh, toute ouais. L'histoire du chat est très décalée et extrêmement récente. Exactement. Et c'est assez fascinant de voir que ces races, donc on avait ce côté mélange. Le chat, d'ailleurs, le chat est vagabonde joyeusement. Donc, on a dans une portée, on va voir des chats de toutes les couleurs, avec poils longs. Et ce n'est pas très grave, en fait. Le chat, on commence à fixer les races, vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça.
Bah, toujours sur cette comparaison chat-chien, on a le chien domestique qui a appris des comportements pour vivre avec l'homme, comme la lecture de nos mimiques, une capacité que les loups n'ont pas. Le chien a développé un muscle facial pour mieux communiquer avec nous, ce qui leur permet d'être particulièrement mignon. Mais alors, qu'en est-il du chat, Eva-Marie Guiguel? Pas de développement pour communiquer un peu mieux avec l'humain.
Ouais, je pense que le chat actuel établit quand même des relations avec les humains avec lesquels il habite. Mais c'est très très récent. Je dirais que c'est vraiment le chat des villes et des grandes villes. Le chat des campagnes, des fermes, même dans les banlieues, à l'orée des forêts, fait des va-et-vient. Hein, donc il n'est pas soumis à une pression par les humains. Donc il n'est pas non plus obligé de communiquer avec l'être humain. Hein. Il trouve, à la limite, il trouve ce qu'il faut pour survivre partout. Il n'a pas besoin vraiment de l'humain. Donc C'est probablement aussi pour ça qu'on dit, bon, c'est plutôt les humains qui étaient domestiqués par le chat que l'inverse, ce qui n'est pas vrai, mais l'être humain est aussi domestiqué, si, là si, je suis d'accord. Mais...
Si, je me sens assez domestiquée par mon chat, donc ouais, très très bien dressée voilà. Même, parce que le chat se dresse, contrairement à une idée reçue. En fait, on peut dresser un chat, on peut lui apprendre des choses et on peut lui donner des habitudes. Donc c'est possible, mais ça demande de notre part un grand effort.
Mais par rapport justement à ces modifications morphologiques ou comportementales, finalement c'est plutôt du côté du comportement que le chat s'est modifié, parce qu'au départ, comme on le disait, le chat sauvage est carrément anthropophobe, il fuit l'homme. Mais alors ça, quand on fait de l'archéozoologie, comment on peut étudier ce changement de comportement du chat à travers le temps?
Alors on l'étudie de façon assez indirecte, on l'étudie dans de la enfin, donc sur les personnes très anciennes, ce que disait Eva Maria tout à l'heure, bah, on peut que supputer, hein. Voilà, mais après, on commence à avoir des textes, quand on arrive sur les périodes plus récentes, hein, heureusement, l'Antiquité, le Moyen-Âge, on a des textes à notre disposition, on a des informations, et donc on voit ces changements qui comment est-ce que le chat est perçu, comment est-ce qu'il est accepté, des gens commencent à écrire sur le chat, on le mentionne de plus en plus, et donc là, on peut étudier autrement, parce que l'archéozoologie, bon, l'outil principal, ce sont les ossements et les dents, hein. C'est vraiment tout ce que l'on trouve en contexte archéologique. Mais on se nourrit également de tout ce qu'il y a autour, et plus on est sur des périodes récentes, plus on se nourrit également de tous ces éléments de contexte qui sont essentiels pour justement mieux comprendre et appréhender les relations homme-animal.
Quels sont ces textes, par exemple, ou ces images qui nous renseignent sur cette relation, cette évolution de la relation homme-chat?
Alors, il y en a beaucoup. On parlait tout à l'heure pour l'Égypte, donc de ces magnifiques représentations de chats sous des chaises avec un collier, par exemple. Ce qui a d'ailleurs pendant très longtemps nourri l'idée que le chat était égyptien. Plus on va sur des périodes récentes, bon, on sait que le chat a été diabolisé. Le chat était très très mal perçu, donc il y a eu beaucoup
d'écrits du
Moyen-Âge, avec la peste, bon, chasseur de souris, donc finalement il a eu une sorte de réhabilitation, puisque quand même il servait à quelque chose, et c'était clair. Mais on a toutes sortes d'écrits, il est assez souvent mentionné, mais plus pour ce côté négatif que ce côté... Alors, ça dépend des cultures en fait. Puisqu'on sait, par exemple, Mahomet a été sauvé parce que le chat a tué un serpent, donc il n'est pas mort. On a des mentions comme ça, donc on voit qu'il y a une proximité quand même entre l'animal et toutes ces petites histoires qui se racontent, bah, racontent la grande histoire du chat.
C'est une grande différence entre le monde musulman, où les chats étaient toujours appréciés, toujours, alors que dans le monde chrétien, il y avait une période où le chat était aussi méprisé que les femmes.
C'est ça, c'est qu'ils sont passés, il y a eu un phénomène de mode autour du chat dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, en effet, ce sont des suppôts de Satan, Eva-Marie Grégel. On voit même des chats qui sont brûlés sur des bûchers, enfin, ça prend quand même une forme de détestation pour les félins qui est assez...
Par contre, on parle parfois des massacres de chats. Mmh. Ça, c'est pas confirmé.
Ah, c'est des légendes urbaines.
En tout cas, scientifiquement, c'est pas clair. Mais que les chats étaient, on a associé les chats avec des caractéristiques qu'on a à l'époque, par exemple, au 14e, 15e, 16e siècle, associé aussi avec les femmes, mais qui était clairement négatif. Par exemple, de s'éloigner la nuit, d'être sauvage, d'être fertile, d'avoir une sexualité très prononcée, d'être très fécond, tout ça, c'était d'un côté voulu, de l'autre côté repoussé par l'Église. Donc c'était très ambigu.
Cécile Calou.
Oui, c'est ce qu'il faut dire, c'est pas uniquement propre au chat. Hein. Là, effectivement, le chat, parce qu'on s'y attache plus, on le voit. Mais au Moyen-Âge, les animaux, en règle générale, l'ours porte aussi des conditions négatives, le lapin aussi. Enfin, un certain nombre d'espèces ne rentrent pas dans le cadre. Et en fait, la chrétienté s'appuyait sur ces animaux pour décrire un certain nombre de comportements qu'ils ne jugeaient pas conformes. Et c'est vrai que souvent, il y avait un lien avec la femme. Là, je suis d'accord avec toi. Souvent, on disait, ben voilà, il y a ça qui va pas. Et c'était souvent un bon support pour faire passer un certain nombre d'idées tout à fait négatives. Mais le chat a eu son lot et effectivement est parti avec un bon poids sur ses petites épaules.
Je reviens au moment où les chats avaient la cote auprès des Égyptiens durant l'Égypte antique. Du côté de l'iconographie, on a aussi un motif intéressant, celui du chat sous la chaise qui apparaît, Cécile Caillou.
Oui.
Ça, c'est un signe de noblesse également.
Alors c'est un signe de noblesse. En fait, on l'a interprété de toutes sortes de manières. Effectivement, on disait que c'est un chat domestique puisqu'il a un collier et une laisse, donc c'est un chat domestique. Bon, il a effectivement un collier, mais en même temps, un collier, on le trouve sur d'autres. C'est pas anodin, mais c'est une période qui est quand même relativement tardive par rapport à l'histoire que racontait tout à l'heure Eva Maria. C'est un chat. Alors, on le voit hein, dans les nécropoles, la nécropole du Beaubastion en a un exemple. Il y avait différentes catégories. Il y avait des momies plus ou moins jolies. Il y avait des très belles momies, il y avait des momies moins belles. Et puis, il y a des sarcophages. En fait, il y a également des gens qui venaient avec leur chat. Donc, il y avait ces élevages qu'on a évoqués en début d'émission. Et il y avait également des gens qui venaient avec leur chat. Et on le sait parce que ces sarcophages-là, il y a le chat qui est dedans. Et il y a le nom du chat qui est inscrit. Il y a le nom du propriétaire. Donc, on a des informations. Tous les chats n'étaient pas logés à la même enseigne. Il y avait des chats bien traités et puis d'autres qui étaient moins bien considérés.
Alors, entre un chat sauvage et un chat domestiqué, quelle différence ?
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Est-ce que vous voulez que nous abordions maintenant de ce problème assez curieux du chat sauvage que l'on rencontre encore dans les forêts assez profondes de la Côte d'Or ?
C'est un animal rare, très rare. On en trouve, bien sûr, tué malheureusement une fois de temps en temps dans la plupart des départements semi-montagneux. Mais c'est dans la Côte d'Or, que dans les grandes forêts de Côte d'Or, que l'on trouve encore en densité raisonnable cet animal. Densité raisonnable, cela veut dire peut-être quelques dizaines de couples. Eh bien, ce chat sauvage est poursuivi depuis toujours par les gardes. Je pense même que sa destruction doit être primée, malheureusement. Jusqu'à ce que nos voisins suisses, ayant eu vent de ces destructions, eux chez qui le chat sauvage est absent depuis des dizaines d'années, ont dit aux gardes, ne les tuez pas, cédez-les-nous. Et ce chat sauvage, ce nuisible en France, eh bien voici que des Suisses, à grand prix, à grande peine, tentent de le réintroduire chez eux volontairement, de le réacclimater dans leur région où il existait autrefois. Je crois que, comme exemple de la valeur toute relative du terme de nuisible, au-delà d'une frontière, au-delà de 100 ou 200 km, que les mots changent à ce point-là, ça devrait quand même laisser assez sceptiques, assez ennuyés ceux qui poussent en avant sans arrêt le terme de nuisible.
Le chat sauvage, ce nuisible en 1966. Une réaction à l'écoute de cette archive, Eva-Maria Gegel.
Oui, les chats étaient effectivement persécutés au 19e siècle, les chats sauvages en Europe. Au 19e siècle, apparemment même en 1966, je ne savais pas. Et en Suisse, il a été déjà éradiqué, donc ils étaient un peu en avance par rapport à la reconnaissance de l'importance de la biodiversité, probablement. Donc ils voulaient le réintroduire. Bon, apparemment ça a marché aussi, parce que je connais une étude autour de Bâle, où il montre qu'il y a de plus en plus de chats sauvages. Il y a aussi métissage avec les domestiqués, qui sont des chats de gouttière ou des féraux. Et donc, oui, c'était une époque où ils étaient éradiqués. Et de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les chats sauvages vont jamais être, comme j'ai dit déjà au début, c'est des animaux solitaires. Ça, c'est aussi une grosse différence avec les loups et les herbivores. Donc, on n'a jamais des grands nombres de chats. Donc, oui, aujourd'hui, on essaye de les sauver. Donc, il y en a quand même en France maintenant. On a analysé.
Cécile Caillou.
Oui, il reste des chats sauvages, hein, et effectivement, ça rentre complètement dans ce changement de perception de la nature que l'on a, où il faut une biodiversité. Il y a ces espèces qui étaient là de tout temps, et il est important de les préserver justement face à ce nombre croissant, que, enfin, avec ces chiffres impressionnants que vous avez donnés de chats domestiques, ils ont leur rôle également de régulateur de certaines espèces, et donc on a besoin de conserver cet équilibre de la biodiversité.
Mais on ne peut pas les préserver sans préserver l'environnement. C'est ça le problème.
C'est ça.
Alors, ça se voit aussi aux États-Unis aujourd'hui. Hein.
À propos de biodiversité, on entendait parler de nuisibles pour parler de chats. Aujourd'hui, le chat est aussi inscrit dans la liste des 100 espèces les plus invasives pour la planète. C'est dans la liste de
les chats domestiqués.
Les chats domestiqués, voilà. Les chats domestiqués qui sont d'ailleurs assez problématiques par rapport aux hécatombes et à leur impact sur l'environnement, Eva-Marie Gueguel.
Oui, tout à fait, ils font des hécatombes. Ils mangent tout, même s'ils n'ont pas faim. Ils mangent des oiseaux, des amphibiens, des reptiles, et tout passe. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et c'est évidemment dans des environnements où il n'y avait pas de chats avant, comme dans les îles Australie ou des îles où il n'y avait pas de chats avant. Mais même aux États-Unis, même en Europe, c'est un vrai problème.
Cécile Cailloux.
Oui, c'est un chasseur, et comme tout chasseur, c'est aussi un joueur. Donc parfois, il ne tue pas pour se nourrir, il tue effectivement pour jouer. Ça a été montré, il y a eu des tests, on a mis des colliers sur certains chats domestiques pour voir où est-ce qu'ils allaient, jusqu'où ils allaient, parce qu'il y a certaines races, il y a certains chats qui sont plutôt grégaires, qui restent autour de la maison, mais d'autres vont extrêmement loin. Et c'était assez intéressant de voir leur parcours, et effectivement, c'est considéré comme un nuisible, parce que on a quand même un vrai sujet sur les oiseaux et le déclin des populations d'oiseaux, et ils n'y sont pas pour rien. Il faut quand même
et
le reconnaître.
Et les amphibiens et reptiles aussi.
Voilà,
hein.
Ils sont conséquences de ce déclin de certaines populations. Donc, quand bien même on les aime beaucoup, il y a quand même un problème.
Je fais ces allers-retours entre chat sauvage, chat domestiqué, parce qu'il y a quand même ce paradoxe. Le chat, c'est l'animal de compagnie par excellence, mais c'est l'animal qui retourne à l'état sauvage avec le plus de facilité. Un chat ne perd pas sa capacité à chasser, Cécile Cailloux.
Aucun problème. Il y a ce qu'on appelle les chats arrêts. Mais alors, arrêt, c'est H-A-R-E-T, hein, c'est pas le chat avec des rayures. On en parlait tout à l'heure, c'est vraiment ce chat. En fait, le chat, c'est pour ça qu'on parle de domestication, mais est-ce qu'il est vraiment domestiqué? C'est vraiment la question, puisqu'il peut retourner à l'état sauvage sans aucune difficulté. Donc, est-ce que c'est vraiment un processus domesticatoire strict? On ne peut pas obtenir la même chose des chiens, on ne peut pas obtenir d'une vache, on n'en parle même pas. Alors que le chat, il n'y a aucun souci pour qu'il puisse se retourner, se nourrir, survivre sans nous. Donc, est-ce que c'est une domestication complète? Oui, c'est domestiqué parce qu'il y a des races. Donc, on a vraiment travaillé ces aspects-là pour obtenir des races.
Mais c'est presque cosmétique.
Voilà, mais c'est un apprivoisement. Pour moi, c'est plus de l'ordre de l'apprivoisement complet qu'à une vraie domestication. Je ne sais pas si tu partages.
Oui, je suis d'accord. Donc, moi, je pense que le comportement a changé. Hein. Comme j'ai dit déjà au début, dans l'Égypte ancienne, il y avait un changement. Sinon, on n'aurait jamais pu élever les chats. Et c'est toujours vrai. On peut mettre des chats ensemble. Et les chats nous tolèrent aussi de temps à autre. Donc, il y a un changement. Mais le changement n'est pas profond. Pourquoi? Parce que, à mon avis, il manquait cette pression de sélection de la part des humains. Les chats, dès le départ, pour moi, étaient parfaits, entre guillemets, parfaits par rapport à ce que les attentes des humains. Il a chassé les rongeurs, il a chassé, tué les serpents, et ça c'est un vrai fléau, aussi bien en Égypte que Proche-Orient, et les scorpions. Donc il a fait ces trois tâches parfaitement. Il n'y avait aucune nécessité de changer son comportement, sa morphologie, même son agressivité. En plus, le Libica, donc le chat ganté, n'est pas aussi agressif que le chat européen. Donc, le chat était parfait. Pourquoi le changer? C'était pas un gros animal qui était dangereux. Donc, tout simplement, il a vécu avec les humains. Donc, et ça jusqu'à aujourd'hui, où on change un peu plus quand même, parce qu'il y a aussi, avec ces races, on change beaucoup plus profondément aussi la physiologie, voire on introduit, par accident, des maladies qui affectent beaucoup l'animal.
C'est ça, c'est le problème, c'est de ces races, et on n'est pas dans les hyper races des chiens, mais de la création de ces races, on sélectionne en même temps des maladies, des pathologies, et donc ce sont des animaux fragiles, alors qu'un chat, en plus, l'avantage, vous pouvez le garder longtemps, et il vous rend service. Donc, effectivement, j'aime bien ta notion de chat parfait, que j'adopte.
Bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir accompagnés l'une et l'autre tout au long de cette heure sur cette histoire de chat. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbaume. Mais un grand merci Cécile Calou, un grand merci Eva Maria Gegel. Et maintenant, on quitte les félins pour les tortues marines, c'est la chronique avec science.
Après des décennies de protection, comment se portent les tortues marines? Elles forment une famille de 7 espèces, présentes dans la plupart des eaux équatoriales et tropicales, parfois jusqu'aux mers plus froides du Nord. L'une d'elles, la Chelonée adopla, pour les connaisseurs, est une exception. Elle ne vit qu'en Océanie. Et c'est aussi la seule qui n'est pas classée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, faute de partage suffisant de données. Toutes les autres, les 6 restantes, sont classées de vulnérables à en danger critique par l'UICN. Mais la chance entre guillemets des tortues marines, c'est que leur conservation est une préoccupation assez ancienne. Alexandre Gérard est chef de projet sur les tortues marines au Muséum national d'histoire naturelle à Paris.
Cette préoccupation, elle est née aux États-Unis et en Amérique centrale avec un chercheur qui s'appelait Arkikar et qui a lancé en fait la préoccupation et a sensibilisé le grand public à la disparition des tortues marines. Et donc ça a commencé dans les années 1950. Et assez rapidement, donc Arkikar a développé des projets pour protéger les tortues marines, et surtout en Amérique centrale et au Costa Rica. Et la protection des tortues marines a donné lieu à la création d'un parc qui s'appelle Tortuguero et qui est bien connu au Costa Rica pour la protection des tortues marines. Historiquement, aux États-Unis, on consommait de la soupe de tortue, par exemple. Dans les pays du Sud, la consommation des tortues est traditionnelle, et donc il y avait des prélèvements humains des populations de tortues pour la viande et aussi la collecte des nids pour la consommation des œufs. Et aussi, alors plus récemment, c'est la pêche qui est souvent montrée du doigt comme une des causes de la disparition des tortues marines.
Les menaces sont clairement identifiées depuis plusieurs décennies, ce qui a permis à l'ensemble des acteurs de la conservation de déployer des mesures de protection concrètes. Par exemple, la surveillance des plages de ponte pour dissuader du braconnage, la sensibilisation des pêcheurs à des techniques de pêche plus durables qui interagissent moins avec les tortues, ou encore la lutte contre la pollution plastique. On a tous et toutes en tête ces photographies de tortues étranglées par un sac flottant. Depuis plus de 50 ans, il existe donc un réel engagement humain et financier pour protéger ces animaux, et on commence seulement à en voir les résultats. Cette nouvelle étude parue dans la revue Endangered Species Research, et dont ce chercheur est l'un des nombreux co-auteurs, est une mise à jour d'une autre publication menée aussi par l'UICN il y a plus de 10 ans. Les scientifiques ont regardé à la fois l'abondance et la résilience des individus, ainsi que les menaces qui pèsent sur eux, braconnage, capture accidentelle, pollution et changement climatique. C'est donc la combinaison des risques d'extinction et des pressions anthropiques sur ces 7 espèces qui ont été analysées ici. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les tortues marines, on ne raisonne plus par espèce, mais par zone géographique. Des unités régionales de gestion qui permettent de mieux rendre compte de leur état en situation réelle. Et bonne nouvelle donc, les tortues marines vont globalement mieux.
Par rapport à l'état des lieux de 2011, on constate quand même une amélioration, c'est-à-dire que pour la moitié des unités régionales de gestion, on a constaté une amélioration. Et pour les autres, on peut avoir des situations soit de maintien de la situation, soit de dégradation. On a une situation très préoccupante pour les tortulutes en général sur leurs différentes unités régionales de gestion. On a une situation qui était préoccupante dans le Pacifique pour la tortulute il y a 15 ans et qui est toujours préoccupante. En revanche, en Atlantique, on avait une situation plutôt correcte, et actuellement, on constate une forte dégradation des populations de tortulutes de l'Atlantique. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle, et ça met en évidence le fait qu'on ne peut pas généraliser à la fois géographiquement en fonction des bassins océaniques, mais on ne peut pas généraliser non plus la situation des tortues marines à travers le monde pour toutes les espèces. Il y a des espèces qui se portent plutôt bien. Par exemple, la tortue cavoine en Méditerranée, actuellement, elle est plutôt en augmentation. On a beaucoup de populations de tortues vertes qui sont en augmentation, Mais pour la tortue lutte, on a vraiment un problème et une priorité de conservation. Et il est urgent de faire quelque chose parce que la situation se dégrade.
Reste à comprendre pourquoi la situation se dégrade pour certaines espèces comme les tortues luttes. Et si les tortues marines semblent être globalement en meilleure posture, leur habitat et leur milieu se détériorent avec le plastique, la salinité de l'eau, son réchauffement et la modification du niveau marin. Autant de pressions qui dépassent l'échelle locale. Les réseaux d'acteurs de la conservation ont un rôle clé. Mais sans décision globale, ces progrès risquent d'être temporaires.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ali Ruyer-Thompson, Eve Etienne, Céline Lausanne, Lou Angers, Loïc Dutoit à la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Dali Yaha. N'hésitez pas à nous suivre sur Blue Sky, @science CQFD, c'était ce qu'il fallait démontrer. À ce jour.